L'énigme du Paris-Brest par Jacques Sessambre. Une odeur lourde stagnait dans la chambre. Cela sentait en même temps les roses, l'embrocation et le caoutchouc. Faute de vase, les fleurs, un gros bouquet de vainqueur, s'étalaient orgueilleusement dans un pot à eau. L'élément caoutchouc était fourni par plusieurs paires de boyaux accrochés au lit du petit Lucas et Tournesol, d'une main habile, étalait l'embrocation sur les jambes de cimier pour mieux les pétrir. En manche de chemise, la casquette sur l'occiput et ses lunettes d'écaille relevées sur le front, Tournesol officiait avec une gravité magnifique. Ses cheveux avaient la richesse du ton des acajou Louis-Philippe. Depuis 10 ans qu'il ne courait plus et consentait des adoucissements à son régime sous forme d'apéritif, son ventre le précédait d'un petit quart de roue, mais être battu par soi-même n'a rien de déshonorant. Quand on a réglé au sprint, dans sa jeunesse, la plupart des camarades, Tournesol avait dignement figuré autrefois sur la route, puis sur la piste. Masseur, il conservait la belle humeur qui n'avait pas peu contribué à lui assurer la popularité au temps de sa splendeur. Cimier, rompu par la dure étape de la journée, dormait, comme seuls savent dormir les enfants, les soldats, les athlètes. Bien que Tournesol lui tripotât vigoureusement les mollets, il ronflait déjà avec une puissance qui dénotait chez lui des dons de basse négligés. « Tourne-toi !» commandait le soigneur. Et malgré son éloignement dans le sommeil, Cimier, par habitude et sans rechigner, roulait sur lui-même tout en ronflant et présentait le côté pile aux paumes luisantes du masseur. Dans le lit voisin, Lucas dormait aussi, à demi dissimulé sous des journaux roses et jaunes où, avant de se laisser terrasser, il avait cherché les commentaires de ses exploits. Pour s'asseoir, Rouvière avait dû débarrasser une chaîne des maillots de rechange, du linge qui l'encombrait. Entre deux étapes, il venait souvent voir les coureurs dans leur chambre, causant avec eux, glanant toujours des idées pour ses articles et des sujets d'écho. Il aimait principalement s'entretenir avec Tournesol, qui connaissait, comme pas un, l'histoire du cyclisme, abondait en aperçus originaux, en anecdotes, et jugeait les hommes avec un sens critique très précis. Ayant, suivant les rites, massé rapidement les jambes et les cuisses de cimier, Tournesol enleva délicatement un pansement humide au-dessous du genou. La veille, dans la traversée d'un village, un chien affolé, ce chien que les routiers considèrent depuis longtemps comme leur bête noire, était venu se précipiter sous la roue de cimier. L'homme, après une pirouette de clown, s'en était tiré sans grand dommage pour sa machine, mais en laissant des fragments de son individu aux cailloux du chemin. « Belle plaie !» murmura Tournesol en connaisseur. « Ça va se fermer comme l'iris d'un appareil photographique. » Rouvière s'est élevé pour mieux voir. « N'empêche, dit-il, que le pauvre type doit joliment souffrir quand il pédale. » Et il n'a pas fini de rire avant le but de la dernière étape. Bon, ils sont habitués. Bien sûr, il ne guérira pas aussi vite que le fakir, mais quel fakir? Le fakir, quoi, le vrai, l'unique, autrement dit, Bonomini. L'ancien coureur, nature. Vous ne saviez donc pas qu'on l'appelait ainsi? J'avoue que... C'est vrai que vous êtes jeune, monsieur Rouvière, tout de même. Depuis le temps que vous suivez les courses cyclistes, vous devriez avoir entendu parler de cette affaire-là. « Je parierais que vous êtes le seul à ignorer mes démêlés avec le fakir et comment que je l'ai eu finalement dans Paris-Brest, l'année que j'ai gagné la course. Ça, par exemple, c'est plus fort que de monter le Tourmalet avec 28 fois 9 de multiplication. »« Savoir, » remarqua ironiquement Lucas qui venait d'ouvrir un œil. « Il y a grand mangin qui raconte que la dernière fois que tu as couru le Tour de France, quand il t'a lessivé dans Aspin, qui n'est pourtant pas un col comparable au Tourmalet, tu poussais péniblement du 21-8. » Tournesol haussa dédaigneusement les épaules. Il tenait d'autant moins à avoir dévié la conversation que, de toute évidence, il voulait placer l'histoire de Bonomini et sa victoire dans Paris-Brest. « Il est vrai, » dit-il avec un rien de mélancolie, « que ça ne remonte pas d'hier, cette aventure-là. Je vous parle d'avant-guerre, moi, et les champions de la belle époque sont bien oubliés aujourd'hui. Place aux jeunes, » dit-on souvent. Comme si la génération actuelle montrait le cran, l'ardeur à la lutte que nous apportions en course. Aujourd'hui, ça se vante, ça crâne, ça fait habiller chez un tailleur high life, ça joue au gentleman. Nous, nous aimions vraiment le métier, la bataille au grand soleil, nous étions des sportsmen, dans toute l'acceptation du mot. Et vu que ça, ricana Lucas, que vous n'étiez pas combinard. Il y a des brebis galeuses partout. Prononça Tournesol en soulignant son affirmation d'un geste large. Dans le sport comme dans la finance et dans la diplomatie. À preuve, Bonomini. Mais quoi? Les exceptions confirment la règle. C'est pas moi qui invente ça. C'est reconnu depuis longtemps par les compétences. On ne peut pas dire que le fakir ait beaucoup contribué à relever la corporation. Mais pour ce qui est d'avoir confirmé la règle, faut lui rendre justice, il y a mis du sien.
Voyons, il marchait pas mal, d'après ce que j'ai entendu raconter, dit Rovière.
C'est un homme qui a passé longtemps pour un régulier, et un spécialiste hors pair du grand fond. Or, il n'était bon justement que sur les petites distances, 250 km tout au plus.
Ça ne me paraît pas bien clair, cette affaire-là.
C'est que justement, ça ne l'était pas. Il faut que je vous raconte l'histoire, en prenant par le commencement, parce que sans ça, vous ne vous y retrouveriez jamais. »
Ayant essuyé ses mains avec une serviette sale, très soigneusement, Tournesol borda les draps de cimier paternellement. Ensuite, il s'assit au pied du lit et ajusta ses lunettes.
« Bonomini, dit-il, n'était pas connu en France. Il avait vaguement figuré deux ou trois fois dans des épreuves en Italie. Pas même de quoi attirer l'attention d'un directeur sportif en quête d'homme nouveau. Et puis, brusquement, il s'était imposé en gagnant Milan-San Remo. Les autres l'avaient laissé filer dans une montée avant le col de Turchino, croyant le retrouver un peu plus loin, les bras en croix, sur la route. Ils le retrouvèrent, en effet, mais baigné, massé, habillé et frais comme du muguet, ayant gagné avec une demi-heure d'avance. Vous parlez d'un événement sensationnel. Les maisons de cycle s'arrachèrent Bonomini à coups de lyre. Les journalistes lui consacrèrent de longs articles. Les directeurs de Vélodrome le retinrent 3 mois à l'avance. Jamais on n'avait vu un homme arriver aussi rapidement. Bref, une marque française l'engagea spécialement pour le Tour de France. Et c'est comme ça que je me trouvais à courir contre lui pour la première fois. Il se comportait bien. Je l'étudiais tout en roulant. J'ai même renseigné sur les hommes nouveaux pour lutter contre eux, autant que possible à armes égales. Il avait une musculature puissante, une belle allonge, une bonne position sur la selle. Enfin, il tournait rond sans effort apparent. À la façon dont il terminait au sprint les étapes courtes, je vis qu'il faudrait compter avec lui. Tout de même, je pensais qu'il ne tiendrait pas dans les très longues étapes. Pensez, dans ce temps-là, on s'envoyait d'une traite les sables d'Olonne-Bayonne et encore Metz-Dunkerque. Eh bien, au contraire, dans la traversée des Landes, si monotone, si pénible à cause de la chaleur, il fut épatant, Bonomini.
Mais pardon, interrompit Rovière, vous venez de dire qu'il n'était bon que sur les petites distances.
Et c'est bien la vérité, mais attendez la suite de l'histoire.
Donc, mon bonhomme montra une grande classe, car ayant crevé du côté de l'Embourret, en pleine forêt de pins, à un moment où le train était plutôt rapide, il trouva le moyen de recoller au peloton dans les 20 km, de semer tout le monde ensuite et de gagner l'étape avec 5 minutes d'avance.
« En somme, remarqua Lucas, il t'avait plutôt lessivé.
Moi et les autres. Mais c'est pas ça qui diminue la valeur de mon palmarès, comme vous allez le voir. »
Il faut reconnaître que nous étions vexés.
Il commençait à nous inquiéter, ce gars-là. Avec ça, rien à lui dire car il ne comprenait pas 15 mots de français. Je pensais, on va voir ça dans les Pyrénées. C'est là qu'on peut vraiment juger la valeur d'un homme.
Vous croyez peut-être qu'il s'en effrayait, comme tous les jeunes?
Pas du tout. La veille du départ pour Luchon, son directeur sportif va voir dans sa chambre s'il dort bien. Pas de Bonomini. On le cherche, on s'affole. En fin de compte, on le découvre dans un dancing, en train de s'adonner aux douceurs du tango, qui était la grande danse à la mode. Ça, personne ne l'avait encore vu. Naturellement, son directeur le ramène tambour battant à l'hôtel, en égrenant spécialement à son intention tous les qualificatifs malsonnants de la langue française. Nous, comme de juste, nous rigolions. Ça faisait toujours un adversaire de moins pour le lendemain, n'est-ce pas? Malheureusement, le jour suivant, Bonomini était encore là, et même un peu là. Il grimpa au bisque en souplesse, et le tourmalait en homme de valeur, bien que faiblissant un peu vers le sommet. C'est à ce moment-là que je passais. Je me dis, il va rétrograder et je ne le verrai plus. J'avais 3 hommes devant moi, et je me sentais assez bien pour fournir une belle fin d'étape. Comme j'arrivais devant l'auberge d'Aspin, vous savez, à droite de la route au bas du col, voilà l'Italien qui me retombe sur les reins et qui me laisse sur place. Un retour de flamme extraordinaire. De le voir marcher ainsi, ça m'en coupa les jambes. Le grand labo me remonta avant le sommet, puis j'eus une défaillance dans paire sourde. Bref, ce jour-là, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée sur les allées des Tigny à Luchon, je faisais 8e. Bonomini 2e, mais il était de beaucoup le plus frais de nous tous, et les journalistes n'hésitèrent pas à l'adopter comme favori. Tournesol, tranquillement, alluma une cigarette. On ne sait pas ce qu'il aurait donné dans la deuxième moitié du tour. S'il avait gagné, ça serait devenu une drôle d'affaire, probablement. Mais Saint-Christophe, qui veille sur les cyclistes comme sur les automobilistes, en avait décidé autrement. Le surlendemain, dans la descente du Puy Morins, Bonomini cassa son pédalier. Il abandonna au contrôle de Bourg-Madame. « Ma foi, reprit Tournesol, quand les diverses épreuves de la saison eurent passé là-dessus, l'abandon de Bonomini dans le Tour de France ne fut plus qu'un incident comme tant d'autres. On n'avait pas pu juger véritablement la valeur de l'homme, et lorsque son nom parut sur la liste des engagés de Paris-Brest au début de septembre, ça ne fit pas sensation. Personne ne croyait qu'il tiendrait sur la distance. Paris-Brest, ça a été la première grande course sur route. Les créateurs manquaient de mesure, faute d'habitude. On n'a rien inventé de plus dur dans l'histoire du vélocipède. Depuis l'exploit du père Théron gagnant ça en 1891 sur les pneus lourds comme des pneus de moto, je me découvre avec respect. 1 200 km d'un seul coup, 3 jours et 2 nuits sans dormir, sans descendre de machine ou presque, c'est du super travail. Il est facile de comprendre qu'on n'ose organiser pareille épreuve que tous les 10 ans. Je n'ai pas besoin de vous dire que sur un tel ruban de route, la moyenne adoptée par les coursiers n'a rien de commun avec celle d'un Paris-Roubaix ou d'un circuit de Paris. On se réserve pour la fin. À l'aller, nous faisons du 20 à l'heure, tout tranquillement. Aussi comptait-on 25 hommes dans le peloton de tête à Mortagne et 18 encore à Laval. Bonomini tenait bien le coup. Il ne parlait pas comme d'habitude. Il avait son allure des bons jours. Le gars, par exemple, devait être frileux. On ne voyait jamais beaucoup de son visage à la fois. Les lunettes, toujours sur les yeux, il portait un bonnet de laine très enfoncé. J'avais déjà remarqué ça dans le tour. « Toi, pensais-je, tu souffriras demain matin, dans le Finistère, où le brouillard nous attend au fond des vallées. » Un peu avant Vitré, mon bonhomme descend. J'étais près de lui, coude à coude. « Perforata la gomma !» qu'il me crie. « C'est comme ça qu'ils disent qu'ils ont crevé, les Italiens. » Je continue, comme de juste. Les voitures étaient devant. Aucun phare pour l'éclairer pendant qu'il réparait. Seulement, il y avait un peu de lune. 5 kilomètres plus loin, le gars rejoignait. Vous vous demandez pourquoi je signale un détail de si peu d'importance, mais vous comprendrez dans la suite. Eh bien, lui dis-je, ça va? Il me fait oui de la tête. Il n'avait presque pas ouvert la bouche depuis Paris, et à partir de ce moment, il devint encore plus muet. Ça ne doit pas aller si bien que ça, que je me disais. Au petit jour, nous étions à Saint-Brieuc. Bonomini passe devant moi au contrôle et il signe de la main gauche. J'étais sûr que la veille à Mortagne, à Laval, il avait signé avec la droite. Il doit avoir un abattis endommagé, que je pense, une crampe, quelque chose. Rien du tout. À Guingamp, à Morlaix, c'est lui qui passe en tête, menant le peloton à 25 à l'heure. Vraiment, il commence à m'étonner, cet oiseau-là. Dans la côte de Kermat, qui est une fameuse côte lorsqu'on vient de Paris, Gressard et Rapsaët lâchent pied. À Brest, c'est au tour d'Obsomer d'abandonner. Et nous voilà sur la route du retour, croisant les traînards le samedi après-midi, derrière l'Italien qui conduit toujours la danse. En repassant à Saint-Brieuc le soir vers 6 heures, nous n'étions plus que 4. Un Belge, qui a surtout couru des Américaines depuis, Smets, qu'on l'appelait, Bellard, Bonomini et moi. Je supposais que Smets ne résisterait pas au manque de sommeil durant la deuxième nuit, et Bellard, un nerveux, n'avait jamais été l'homme des longues distances. Restait l'Italien. Il me paraissait beaucoup plus redoutable qu'au départ. J'étais dérouté par ses manières. Le premier jour, il avait bu du café. Maintenant, il avalait de l'eau minérale. C'est contraire à l'alimentation d'un homme qui fournit un effort prolongé. Il s'effondrera demain au soleil, que je pensais. Un peu avant Rennes, dans une nuit d'autant plus noire que les suiveurs, fatigués, s'étaient arrêtés, je ne sais où, nous privant du secours de leur phare, Bonomini mordit la poussière. Pour parler plus exactement, il la mordit avec le genou. Il repartit, décoré d'une large écorchure dans le genre de celle que nous regardions tout à l'heure sur la jambe de Cimier. Rien de grave, du reste. Au contrôle suivant, la blessure disparut sous un pansement. Nous roulions toujours tous les 4. Je souffrais de courbatures, mais enfin ça allait. Faut pas oublier que nous pédalions sans arrêt depuis bientôt 48 heures. Ça, c'est autre chose que de disputer à 2 une épreuve de 6 jours, vous savez. Rien à signaler jusqu'à Vitré, que nous traversons en silence devant des maisons fermées. Quelques mètres après la sortie de la ville, Bonomini s'arrête. Bien, que je pense, perforate à la gomme. Junior comprendrait que profiter de la circonstance pour essayer de se sauver à une pareille distance de Paris, ça n'aurait pas été une bonne tactique. Seulement, il était très intéressant de noter le temps que l'Italien mettrait à réparer et à rejoindre pour juger de son état de fraîcheur. Je regardais ma montre, total 12 minutes. Nous n'allions pas vite, c'est entendu, mais pour un homme qui roulait depuis 2 jours, disons le mot, c'était bien. Tournesol, tu auras du mal à le battre, que je songeais comme ça, en appuyant sur les pédales. Je ne fais pas d'autres remarques importantes à part que Bonomini se remette à boire du café crème. Et au grand soleil du dernier jour, nous roulons vers Paris au milieu des acclamations. Je ne peux pas vous raconter toute la course, kilomètre par kilomètre, bien sûr. Je serai obligé de négliger mon travail, et j'ai encore 2 gars amassés ce matin avant le déjeuner. J'arrive tout de suite à l'incident final. Vous allez voir que c'est curieux, caractéristique et documentaire. Avant Alençon, nous traversons une petite localité qui s'appelle Préampaille. Quand Bonomini se sauve brusquement à 40 à l'heure. Vous entendez bien, 40 à l'heure. J'ai connu des hommes de classe, mais ça, c'était plus fort que de jouer au football avec un œuf de pigeon. Naturellement, je m'élance derrière le fuyard, car l'aventure n'était pas de mon goût. Un petit cochon de patelin, qui ça déplaisait davantage encore, se jette au devant de l'Italien, vient bouler dans sa roue, et voilà l'outsider sur le carreau. On dira ce qu'on voudra, mais l'imprudence de cet animal-là a joliment servi la cause du sport cycliste. En passant près de l'Italien qui grimace en milieu de la route, savez-vous ce que je remarque? Dans la chute, le pansement a sauté. Et dessous, le genou apparaît absolument indemne. Pas la moindre trace de blessure. Pas ça, reprit Tournesol, faisant claquer sur ses incisives l'ongle de son pouce. Jamais on n'avait vu une plaie guérir aussi rapidement. Alors brusquement, la vérité m'éblouit comme un éclair de magnésium. Des détails qui m'avaient étonné me reviennent dessus comme une nuée de mouches. Et puis, l'air fermé de ce type bizarre m'intriguait, au fond. Le coup de la plaie effacé subitement, comme sur la jambe d'un fakir, achève de m'éclairer. Perforata la combinazione, que je crie à Bonomini. Et j'arrête les voitures. J'interpelle les commissaires. Voilà tout le monde debout sur la route. On n'a pas eu souvent l'occasion de photographier pareille scène en course. Voyons, voyons, dit Rouvière. Je vous demande pardon de vous interrompre, mais je ne saisis pas très bien. Dans le sourire de Tournesol passa une fierté tempérée d'indulgence. C'est pourtant clair. Il y avait 2 Bonomini, 2 frères jumeaux, alors que nous n'en connaissions qu'un. Le premier, qui se prénommait Amedeo, possédait une licence de coureur professionnel. Le deuxième, Giuseppe, restait prudemment dans la coulisse. Amedeo était droitier et Giuseppe écrivait avec la main gauche. À part cela, ils se ressemblaient autant que 2 frères jumeaux peuvent se ressembler. J'ai eu, depuis, l'occasion de les voir souvent l'un à côté de l'autre. C'était invraisemblable. Tout de même, en cherchant bien, on trouvait de petites différences, dans la voix, par exemple. C'est pour cela qu'ils parlaient à peine. Et aussi Amedeo, quand il riait, montrait des dents en or que l'autre n'avait pas. Je pense que maintenant, vous vous expliquez tous les détails de l'affaire. Amedeo, qui aimait le café crème, s'était réservé dans Paris-Brest la première et la dernière section du parcours. Giuseppe, qui préférait l'eau minérale, n'avait couru que de Laval à Brest et de Brest à Vitré. Comme travail, vous conviendrez que c'était bien présenté. On supposa que dans le Tour de France, et aussi dans Milan-San Remo, ils avaient employé le même système, bien que pour faire la preuve, c'était un peu tard. Enfin, on trouva qu'en étendant à la route la formule de course dite à l'américaine, ils avaient exagéré. Mais j'anticipe sur les événements. J'oublie de vous dire que les 2 autres, Bellard et Smets, je les ai eus à Tillières, en les laissant sur place, au cours d'un démarrage, qu'on peut encore citer aux jeunes. C'est comme ça, conclut Tournesol, que j'ai gagné Paris-Brest, et que j'ai été porté en triomphe à l'arrivée sur la pelouse du Parc des Princes, que le surnom de Fakir, que je lui avais donné sur la route, en le démasquant, est resté à Amedeo Bonomini. Et qu'est-il devenu dans la suite ? Demanda le journaliste. Vous pensez bien que ça n'a pas traîné. La semaine n'était pas morte, qu'on apprenait la disqualification à vie d'Amedeo Bonomini. D'Amedeo seulement, bien entendu, puisque l'autre, Giuseppe, ne possédait pas de licence. Aucun recours contre celui-là, rien que la désapprobation générale des sportsmen. Mais j'ai encore 2 gars amassés, hein ? Excusez-moi, si je vous demande pardon, seulement le travail, c'est le travail. Il ramassa des fioles, des pots, des serviettes, salua de l'index et disparut. Assis dans son lit, les cheveux ébouriffés et l'œil vif, le petit Lucas souriait. Sacré tournesol, murmura-t-il, c'est un type. Quand il parle du temps où il courait, il rajeunit de 20 ans.
Ça vous tient tout de même, ce métier-là. Et pourtant, il y a des heures qui ne sont pas drôles.
Tenez, j'ai crevé 2 fois au moment où je rejoignais le peloton, vous parlez d'une poisse.
Enfin, je vais dormir par là-dessus, et demain au départ, je serai tout ce qu'il y a de combatif.
Il se tourna contre le mur. Ses mires ronflaient toujours.
Ainsi s'achève l'énigme du Paris-Brest par Jacques Cézambre.